Chapitre 5. Pourquoi moi? Pourquoi là? Pourquoi à ce moment-là? Habituellement, la graisse corporelle est appréhendée selon un schéma dualiste. On en a trop ou pas. Mais ce point de vue simplifie à l'excès un phénomène en réalité beaucoup plus complexe. Car il est également important de considérer non seulement les parties du corps qui accumulent de la graisse, ainsi que le moment où cela se produit. Les spécialistes le reconnaissent implicitement lorsqu'ils expliquent que l'obésité abdominale, c'est-à-dire la présence excessive de dépôts de graisse au niveau du ventre, entraîne un risque accru de maladies cardiovasculaires, alors que ce n'est pas le cas d'un embonpoint concentré sur les hanches ou sur les fesses. Le fait que deux individus se suralimentent et absorbent davantage de calories qu'ils n'en dépensent n'explique en rien pourquoi la répartition de leur graisse corporelle, et partant le risque de mourir prématurément, peut être si différente de l'un à l'autre. Pourquoi certaines personnes ont un double menton et d'autres pas? Ou des chevilles épaisses? Ou des poignées d'amour? Pourquoi les seins de certaines femmes présentent-elles de voluptueuses accumulations de graisse et d'autres très peu? Quid d'un imposant postérieur? Les femmes africaines qui présentent au niveau des fesses des dépôts graisseux proéminents, un phénomène appelé stéatopygie que vous pouvez voir avec vos propres yeux à l'annexe image numéro 1, la stéatopygie étant considérée parmi ces populations comme un canon de beauté, ne les ont certainement pas développées en mangeant trop ou en étant trop sédentaires. Or, si ces explications ne s'appliquent pas à elles, pourquoi les accepter lorsqu'il s'agit de la graisse accumulée par des Occidentaux sur leurs propres fessiers? Avant la Seconde Guerre mondiale, les médecins qui étudiaient l'obésité pensaient pouvoir l'expliquer en grande partie en observant la façon dont la graisse était répartie chez leurs patients obèses. Ils incluaient des photos de ces derniers dans leurs ouvrages pour faciliter la transmission de certains points importants concernant la nature de la prise de poids. J'ai moi-même inclus quelques-unes de ces photos, vieilles d'environ 70 ans, dans le présent livre audio, afin d'illustrer mes propos de façon plus plastique. Pour d'obscures raisons, les manuels modernes traitant de l'obésité ne contiennent que peu, ou pas du tout, de photos de personnes obèses. D'ailleurs, une grande partie des données que nous allons analyser ici sont issues de discussions datant d'avant la Deuxième Guerre mondiale, sur les raisons pour lesquelles on prend du poids, et notamment des travaux de l'Allemand Gustav von Bergmann, autorité de premier plan de la médecine interne durant la première moitié du XXe siècle, et de Julius Bauer, qui fut l'un des pionniers de la recherche endocrinienne et génétique à l'Université de Vienne, et, pour citer un numéro du New York Times de 1930, un illustre spécialiste viennois des maladies internes. On sait depuis les années 1930 que l'obésité comporte un aspect génétique non négligeable. Quelqu'un dont les parents sont gros a beaucoup plus de chances de l'être également que quelqu'un dont les parents sont minces. Cela signifie que la morphologie du corps humain est en grande partie héréditaire. Comme le disait Hildebrandt, les similarités morphologiques entre parents et enfants ainsi qu'au sein de fratries sont souvent aussi frappantes que les ressemblances faciales. Ce n'est bien sûr pas toujours le cas, de même que les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents, mais c'est suffisamment fréquent pour que tous nous connaissions des familles dans lesquelles le père et le fils ou la mère et la fille possèdent effectivement la même silhouette. Quant aux vrais jumeaux, ils se ressemblent non seulement de visage mais aussi de corps. Ainsi, si on prend deux paires de jumelles monozygotes, des vraies jumelles, l'une mince, l'autre obèse, les silhouettes des jumelles sont toujours identiques, quelle que soit leur corpulence. Selon le modèle de l'équilibre entre les calories consommées et les calories dépensées, la suralimentation pourrait expliquer pourquoi les premières jumelles sont minces et pas les secondes. Les premières auraient mangé avec modération, équilibrant leur apport et leurs dépenses caloriques avec l'infinie précision dont nous savons désormais qu'elle est nécessaire, au contraire des secondes qui, elles, se seraient suralimentées. Mais cela n'explique pas les ressemblances au sein d'une même paire. Comment se fait-il que les jumelles minces d'une part et les jumelles obèses d'autre part aient développé des morphologies à ce point semblables? Pourquoi leurs dépôts graisseux sont-ils répartis pratiquement à l'identique? Doit-on supposer qu'elles ont absorbé un nombre quasi égal de calories au cours de leur vie, parce que leurs gènes déterminaient avec précision non seulement la taille des portions qu'elles mangeaient à chaque repas, mais aussi leur degré de sédentarité, c'est-à-dire le nombre d'heures qu'elles passaient à ne rien faire dans leur canapé, plutôt qu'à marcher ou à jardiner? De tout temps, les éleveurs de bétail ont su d'instinct que chez les bêtes, le gras avait une composante génétique innée, et ils ont consacré beaucoup de temps à élever bœufs, porcs et moutons, dans le but d'obtenir des animaux plus ou moins gras, de même qu'on élève des vaches laitières dans le but d'augmenter la production de lait ou des chiens pour chasser ou surveiller les troupeaux. Or, il paraît peu probable que les éleveurs de bétail soient en mesure de manipuler uniquement les traits génétiques qui déterminent chez les bêtes la volonté de manger avec plus ou moins de modération et le besoin plus ou moins fort de s'adonner à une activité physique. Ainsi, la vache Angus, plutôt grasse, est appréciée pour sa viande très persillée. La vache jersiaise, race peu grasse, a des côtes saillantes mais forme une excellente vache laitière. De nouveau, faut-il supposer que la viande des Angus est persillée, c'est-à-dire riche en graisse intramusculaire, parce que cette race brouterait mieux ou plus longtemps que la jersiaise? Parce que ses gènes la programmeraient à faire de plus grosses bouchées, et par conséquent à absorber davantage de calories par heure de pâture? Doit-on penser qu'une jersiaise prend davantage d'exercice qu'une Angus? Que tandis que celle-ci broute ou dort, la jersiaise court à travers prés à l'instar de ses lointains ancêtres, contraints de prendre la fuite devant leurs prédateurs. Ces suggestions semblent absurdes, certes, mais qui sait, après tout? Plus sérieusement, les pis gonflés de lait des jersiaises et la viande persillée des Angus suggèrent une autre piste. Après tout, ce que l'on demande à une vache laitière est de convertir en lait un maximum de l'énergie qu'elle absorbe. Elle n'est pas censée gaspiller cette énergie à produire du gras. À l'inverse, on attend d'une vache de boucherie comme l'Angus qu'elle transforme efficacement les aliments qu'elle ingère en chair persillée, riche à la fois en protéines et en lipides. En conséquence, il semble plausible que les gènes qui déterminent le degré respectif d'adiposité de ces deux races bovines n'aient pas grand-chose, voire même rien, à voir avec leur appétit ou leur activité physique, mais influent en revanche sur la façon dont chacune répartit l'énergie qu'elle absorbe, la transformant soit en protéines et en lipides musculaires, soit en lait. Autrement dit, que les gènes ne déterminent pas le nombre de calories que ces animaux consomment, mais ce qu'ils en font. Chez l'homme, il existe également un phénomène contredisant de manière flagrante le modèle de l'équilibre entre les calories consommées et les calories dépensées. C'est le fait que les hommes et les femmes ne grossissent pas de la même façon. En effet, en règle générale, les hommes stockent la graisse au-dessus de la taille, ce sont les fameux abdos crocs, tandis que les femmes l'accumulent en dessous. Par ailleurs, à la puberté, les filles grossissent, et ce principalement au niveau des seins, des hanches, des fesses et des cuisses, tandis que les garçons perdent, eux, de la graisse au profit de la masse musculaire. Si les filles abordent la puberté avec à peine plus de graisse corporelle que les garçons, 6% en moyenne, cette différence est de 50% lorsqu'elles arrivent à l'âge adulte. Comme l'écrivait en 1931 le médecin allemand Erich Graffe dans son manuel « Les maladies du métabolisme et leur traitement » au sujet des différences de répartition de la graisse selon le sexe, le modèle énergétique ne peut certainement pas être appliqué à ce domaine. En d'autres termes, lorsqu'une fille aborde la puberté aussi mince qu'un garçon et en sort quelques années plus tard dotée des courbes qui caractérisent la femme adulte, ce n'est pas pour cause de suralimentation ou d'inactivité, même si c'est en grande partie la graisse qu'elle a développée qui lui confère sa silhouette féminine et s'il lui a fallu absorber plus de calories qu'elle n'en dépensait pour acquérir ses tissus graisseux. Le modèle énergétique est également battu en brèche par une pathologie très rare portant le nom de l'hypodystrophie progressive, ce qui signifie « anomalie dans l'accumulation de la masse grasse ». Vers le milieu des années 1950, on connaissait l'existence d'environ 200 personnes, majoritairement des femmes, présentant cette pathologie caractérisée par une perte totale du tissu graisseux sous-cutané de la partie supérieure du corps, accompagnée d'une apparition de graisse en excès au-dessous de la taille. Consultez l'annexe, image numéro 2. Cette affection est qualifiée de « progressive » parce que la perte de graisse de la partie supérieure du corps se fait graduellement, frappant tout d'abord le visage, avant de descendre lentement vers le cou, les épaules, les bras et enfin le torse. Bon, mais peut-être vous demandez-vous quel est le rapport avec le modèle de l'équilibre entre les calories consommées et les calories dépensées. Ce rapport tient à une simple question. Quelqu'un qui croit que l'on grossit parce qu'on mange trop et que l'on mincit parce qu'on se sous-alimente, peut-il réellement supposer que cette femme, et les autres personnes dans son cas, ait vu fondre la graisse de la partie supérieure de son corps parce qu'elle ne mangeait pas assez, tandis que celle de la partie inférieure de son corps s'accumulait parce qu'elle mangeait trop ? C'est à l'évidence un postulat ridicule. Mais alors, comment se fait-il que lorsque l'obésité ou l'extrême minceur sont ainsi localisées, nul ne met en doute le fait qu'elles soient indépendantes de la quantité de nourriture ingérée ou d'exercice pratiqué par la personne, tandis que lorsqu'il concerne le corps tout entier d'un individu, Ces mêmes phénomènes soient supposés être imputables à la différence entre les calories absorbées et les calories dépensées par cet individu. Si la jeune femme de l'image numéro 2 était, ne serait-ce qu'un tout petit peu, plus enrobée du haut du corps et qu'elle se rende aujourd'hui chez un médecin, celui-ci poserait immédiatement un diagnostic d'obésité et lui conseillerait de manger moins et de bouger plus. Et cela paraîtrait parfaitement raisonnable. Mais la validité d'une explication de l'obésité et de ses causes, et par la même occasion la différence entre raison et absurdité, peut-elle vraiment ne dépendre que d'un ou deux kilos de graisse ? Il existe une forme moderne de lipodystrophie, beaucoup moins rare celle-là, il s'agit de la lipodystrophie associée au VIH, une pathologie vraisemblablement causée par les médicaments antirétroviraux que prennent les patients infectés par le VIH pour combattre le virus et empêcher le sida de se développer. Les personnes concernées par cette pathologie perdent la graisse sous-cutanée de leur visage, de leurs membres et de leurs fesses, mais en accumulent à d'autres endroits, les deux phénomènes ne se produisant généralement pas au même moment. Ces personnes peuvent ainsi notamment développer un double menton, ainsi qu'une accumulation de graisse très particulière située dans la partie supérieure du dos, appelée bosse de bison. On constate également une croissance mammaire, y compris chez les hommes, et l'apparition fréquente d'un ventre proéminent ressemblant à s'y méprendre aux abdos crocs évoqués plus haut. Si on ne peut considérer le ventre proéminent de ces personnes malades comme étant la conséquence d'un déséquilibre entre apport et dépenses caloriques, peut-être ne devrions-nous pas le faire non plus en ce qui concerne nos propres bourrelets.